Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des outils et des stratégies pour vous aider à monter votre marque. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Marc Baugé. Bonjour Marc.
Bonjour Adrien.
Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Ouais, je peux. Je m'appelle Marc Baugé, j'ai 38 ans, j'ai 3 enfants et je suis journaliste.
D'accord.
Je pense que c'est le métier qui me caractérise le mieux et celui que j'amène un peu dans les différentes activités que je fais. En l'occurrence, je m'occupe en tant que rédacteur en chef du magazine Society. Et j'ai aussi en tant que rédacteur en chef la charge de l'étiquette et de Holiday Magazine. Et puis, je fais des activités de chroniqueur, comme on dit. Donc, j'écris dans le M, le magazine du Monde. Et je passe aussi dans l'émission Quotidien, le vendredi. Et puis, en marge de ça, peuvent venir se greffer d'autres projets plus ponctuels. Mais ça, c'est mon cœur d'activité.
D'accord, très bien. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu peux reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance
pour
comprendre qu'est-ce qui t'a amené à ça, quoi.
Ouais, tout à fait. Alors, je suis né à Rungis, donc en banlieue. J'appelle ça la banlieue molle en général, par opposition à la banlieue plus dure et par opposition aussi à Paris. Voilà, c'est cette espèce d'espace pavillonnaire souvent. Celui dans lequel on se rend RER et qui n'a pas de culture en soi, autant on peut très vite se figurer quelle est la culture des banlieues dures, des cités ou de Paris d'un côté, puis il y a cette zone de banlieue molle pavillonnaire entre les deux. Donc Rungis fait partie de ça, j'ai grandi là, une enfance ma foi de fils unique assez tranquille et bourgeoise, oui moyennement bourgeoise, mais en tout cas assez tranquille, pas de crise d'adolescence.
Ouais.
Et plutôt un garçon qui travaillait pas trop mal à l'école et qui, ma foi, a grandi comme ça. Et beaucoup de foot, de rock, les cultures. Les très vite, j'ai été intéressé par les sous-cultures. Le foot, au-delà de la pratique sportive, a une sous-culture. On parle souvent des ce que les Anglais appellent les casuals, qui sont les gens qui vont au stade. Et puis le rock, évidemment, fait de sous-cultures. Je me suis longtemps intéressé aux mods, parce que c'était la musique et puis la dégaine et aussi une forme de philosophie. Donc ça, c'est des passions adolescentes qui m'ont suivi jusqu'au début de ma carrière professionnelle en tant que journaliste et qui ont été aussi des sujets de travail. C'est-à-dire que j'ai écrit sur le foot pendant longtemps puisque j'ai été reporter à France Football et à l'équipe, où j'ai fait des choses très rigolotes, remis un ballon d'or à Cristiano Ronaldo. J'ai des photos, mais c'est des dossiers. Et puis j'ai été voir des matchs, je suivais l'OM, enfin des choses comme ça qui m'ont fait faire du terrain en tant que reporter. Et puis j'ai écrit aussi sur la musique. J'ai écrit des chroniques d'albums. Au-delà de la musique, parce que je suis pas un très bon critique musical, j'ai pas la culture assez pointue, même si j'aime ça. Ce qui m'intéressait dans le rock, c'était la sous-culture, effectivement. C'était comment, au-dessous de cette grande ombrelle qu'on appelle le rock au sens très large, il y a à la fois les punks, il y a les mods, il y a les Teddy, il y a les rockabilly, etc. Et comment se croisent, on arrive au sujet, le style et la musique. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien le vêtement quand il est adossé à une culture. Mmh. On va en parler, mais la mode en soi, sans rien, la mode comme simple produit ne m'intéresse pas. La mode comme objet culturel me passionne. Et j'ai beaucoup écrit. Mon premier texte qui vraiment parlait de vêtements, c'était un texte sur l'usage de la cravate dans le rock'n'roll. Ça avait fait l'objet d'un grand papier, c'était dans Technicart à l'époque. Et j'essayais de montrer comment, dans toutes les décennies, les rockers ont porté la cravate. Et ça va de, je sais pas, de Billie Holiday à Kurt Cobain, qui sur la pochette d'un album porte une cravate Brooks Brothers de Wasp, évidemment c'est ironique, aux cravates en cuir des Sex Pistols, très SM. Et donc cette cravate qu'on imagine très bourgeoise disait plein de choses, et tous les rockers se la sont appropriés à un moment. Et voilà, ce texte, ça devait être au début des années 2000 que je l'ai écrit. Je devais avoir une vingtaine d'années. Ça, c'est le moment, je pense, où je me dis, tiens, le vêtement peut permettre de raconter des choses, peut permettre de dire précisément qui est quelqu'un, peut raconter au-delà d'un simple jugement esthétique une période, une génération, un mouvement culturel. Et voilà, finalement, depuis, c'est un peu ça que je travaille comme matière. Et voilà, donc j'ai travaillé à l'équipe, j'ai commencé aussi à écrire dans le magazine GQ, où j'ai commencé à donner des conseils de style modeste, mais bon, pourquoi pas, ça marchait, les gens aimaient bien, enfin j'avais l'impression.
Et qu'est-ce qu'ils aimaient les gens ?
Cette espèce de mélange de ultra premier degré et de ultra millième degré. J'aime bien cultiver ça, c'est-à-dire que je saurais pas dire si c'est premier ou deuxième degré. Moi, je saurais pas dire si c'est premier ou énième degré. C'est-à-dire, quand j'écris sur le vêtement, ça me passionne. Très concrètement.
Vraiment.
Vraiment. Les questions auxquelles j'ai pu répondre toutes ces années sur la largeur d'un revers, la largeur d'une cravate, deux, trois boutons la veste, c'est des questions que je me suis réellement posées, auxquelles j'ai cherché des réponses. Et en même temps, je sais la limite, la futilité totale de cette matière-là. Je sais qu'on peut pas juger quelqu'un à sa dégaine. Je sais qu'il y a des choses infiniment plus importantes, mais je pense que ça n'empêche pas de se poser ces questions-là. Et je veux qu'au travers de mes textes, on sente tout ça, enfin, on sente la précision et la dérision. Et cette espèce de mélange, quand on le comprend, quand on a envie de le comprendre, il peut visiblement amuser. Donc voilà, c'est ça que j'ai aimé cultiver. Et après, je suis parti aux Inrock. Alors aux Inrock, il y avait moins de mode, mais j'étais reporter société, j'ai terminé rédacteur en chef aussi. Ce fut bref, mais c'était assez marrant. Enfin, c'était une époque assez rigolote.
Et tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne une rédaction, en fait, comment tu deviens, enfin, comment tu passes de reporter à directeur.
Ouais. En fait, d'abord on est reporter, et puis il s'opère un phénomène un peu curieux, c'est-à-dire que les meilleurs, les reporters qu'on estime bons, solides, qui font leurs preuves, deviennent rédacteurs en chef. Je sais pas si c'est la bonne façon de faire, parce que ce sont deux métiers très différents, et c'est pas parce qu'on est bon dans un qu'on va être bon dans l'autre. C'est des qualités différentes. Le reporter est seul, le manager manage. Il y a des qualités de terrain contre des qualités plutôt d'organisation, de bureau. Donc voilà, il se trouve qu'aux Inrock, où je me sentais bien, on a dû apprécier mon travail, et puis la façon dont je marchais avec les gens, on avait fini par me proposer d'être rédacteur en chef. Je sais pas si c'était une bonne idée. Ça a été très court, puisque à l'époque, c'était Audrey Pulvar qui m'avait nommé rédacteur en chef des Inrock, et notre collaboration n'était pas naturelle. Et au bout d'une semaine, je suis parti.
Ah oui, d'accord.
Pour devenir rédacteur en chef de SoFoot, et c'était SoFilm aussi. Ouais. Puisque je revenais au Bercail, où j'avais contribué il y a une quinzaine d'années avec Franck, Stéphane et d'autres au lancement de SoFoot. Donc je suis rentré à la maison il y a 5-6 ans. Et aujourd'hui, je m'occupe de Society, le nouveau magazine du groupe Sopress, plus l'étiquette qu'on a lancée et plein d'autres choses à côté.
D'accord. Très bien.
Voilà, c'était un peu le bazar.
C'était un peu le bazar. Et il me semble que tu as raté plein d'épisodes, non?
Ouais, je suis allé un peu vite peut-être.
Ouais, d'accord, très bien. Non, écoute, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, en venant te rencontrer, il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Mais c'était en particulier parler des médias, des médias plus généralement, de la mode, de c'est quoi le modèle, la première question qui me vient, c'est quoi le modèle économique d'un magazine aujourd'hui, des médias aujourd'hui, en mettant en avant l'importance de l'indépendance,
ouais, bien sûr,
un média, etc. J'aimerais bien qu'on développe un petit peu cette partie là.
Bien sûr, ouais. Donc je vais te parler en particulier de l'étiquette, que je connais vraiment organiquement, précisément.
Comment ça s'est passé d'ailleurs, l'étiquette?
Ouais, l'étiquette, ça vient d'une envie assez simple. Ça fait longtemps que je me demandais si Sopress était légitime à parler de style, comment on allait le faire, parce que c'est pas la culture de la maison. Voilà, après, celui, je suis un, sans doute le seul qui vraiment s'intéresse précisément à ça. Je ne dis pas ça pour le look de mes camarades, évidemment.
Tu peux peut-être aussi, juste ce que je dis aussi en début de podcast, c'est que c'est un podcast qui se veut pédagogique. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas Sopress.
Bien sûr.
Dans mes auditeurs.
Ouais, alors Sopress, je vais faire le topo en quelques minutes. Sopress a été créé il y a une quinzaine d'années pour schématiser avec le groupe SoFoot, avec le magazine SoFoot, pardon. Magazine qui s'est installé de façon assez étonnante et durablement dans le paysage médiatique et sportif en France, qu'on a créé en 2004, donc il a 15 ans. Ouais. Et suite au succès de ce titre qu'on a monté quelques-uns, mais notamment avec Franck Hanez, s'est développé un groupe de presse. Il y a eu dans la foulée de SoFoot, il y a eu par ordre, il me semble, SoFilm ensuite. Puis on a créé des magazines plus ponctuels de rugby, de vélo, avant de lancer le magazine qui est aujourd'hui, comme il sort deux fois par mois, le magazine un peu amiral, qui est Society, qui est un magazine de société, indépendant et libre, c'est marqué sur la couverture. Et donc ça, voilà, ça fait maintenant 4 ans, je crois, que Society a été lancé. Et c'est on reprend dans Society ce qui fait un peu notre façon de faire, notre savoir-faire depuis le début, c'est-à-dire raconter des histoires, privilégier le temps long, pas le buzz. On est assez peu digitaux sur Society parce qu'on aime bien la réflexion, le recul, le reportage, le qualitatif plutôt que le quantitatif. Voilà, c'est ça, Sopress. Et donc autour de cette activité de presse, on a développé des activités de production, de brand content, on fait de l'événementiel, on édite des livres, on fait des podcasts aussi, avec moins de talent que toi, mais on s'y essaye. voilà, c'est ça, Sopress. Et donc, on n'avait jamais fait avant l'étiquette, on n'avait jamais parlé de style. C'est pas notre culture. Et moi, en parallèle, j'écrivais beaucoup sur le style. Enfin, j'écris toujours beaucoup sur le style, au quotidien, au M. Et donc, ça me titillait quand même de se dire comment Sopress pourrait légitimement rentrer dans ce secteur-là. Et donc, je me suis dit pourquoi pas faire un magazine une fois par an. À l'époque, je pensais une fois par an pour hommes, qui serait comme une bible de comment s'habiller et en même temps qui aurait cette plus-value culturelle. On raconterait des histoires. Donc, un magazine très Sopress. Qui raconte des histoires et en même temps avec une notion de très pratique, la mode, mais pas la mode, pas la fashion, quoi. La mode telle qu'on la porte, telle qu'on la vit, parce que tout le monde s'habille, même les gens qui n'ont pas l'air de s'habiller s'habillent le matin, ils choisissent entre un t-shirt noir et un t-shirt blanc. Je pense que ça concerne beaucoup de gens et que ça raconte beaucoup de choses sur l'époque, la façon dont on s'habille. Je pense que ce qu'on mange est aussi révélateur. Et comment on s'habille ? Et c'est à peu près tout, parce que tout le monde n'écoute pas de musique, par exemple, tout le monde ne lit pas des livres, mais tout le monde s'habille et tout le monde mange. Comme moi, je mange très mal, j'ai préféré m'occuper de comment on s'habille. Donc, j'en ai parlé à Franck Hanez, le patron, et il m'a dit banco en se croisant devant les toilettes en 30 secondes. J'en ai parlé à Gauthier Borsarello, que tu as déjà rencontré, avec qui on partage plein de goûts esthétiques et avec qui on s'entend, on marche très bien ensemble. Donc, lui aussi a embarqué. Et puis, ça s'est fait comme ça, assez naturellement, assez rapidement. Et le magazine, le premier numéro est sorti en octobre dernier, ça a super bien marché. Le deuxième est sorti, ça a très bien marché aussi. Puis on est content, là, ça roule.
C'est parti.
Et c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de plaisir aussi. On aime vraiment faire ça. Effectivement, il y a un vrai enjeu d'indépendance et en même temps de viabilité économique. Par exemple, on fait un podcast qui s'appelle Habitude, qui est né après le magazine. Il se trouve que ce podcast, moi je voulais le lancer, mais uniquement en sachant qu'il avait un modèle économique, qu'il avait une réalité économique. Faire des belles choses qui n'ont pas de réalité économique, qui te font perdre de l'argent, ça m'intéresse moins que de faire des choses de qualité qui ont un modèle économique. Je trouve que c'est ça le vrai enjeu. On a cogité, on a laissé passer un peu de temps et puis on a trouvé un annonceur qui était prêt à financer, donc à payer les podcasts, tout en s'engageant à ne pas se s'impliquer dans le contenu. Quel allait être le podcast, quels invités on allait inviter dans le podcast, tout ça, l'annonceur, qui est Chanel en l'occurrence, ne le regarde pas, l'apprend en même temps que les gens qui découvrent le podcast. Et ça, c'était crucial pour moi. Je voulais pas faire un podcast télécommandé. Je voulais faire un podcast libre, avec une réalité économique et donc avec un annonceur, mais quand même sur lequel on avait la main totale. Et c'est en ça que je disais au début que j'étais un journaliste. Moi, c'est important et c'est des arbitrages. Et je suis pas 100% indépendant. Il y a des concessions, il y a des équilibres à trouver. Mais c'est important de faire un magazine, de faire quelque chose qui nous ressemble, qu'on assume entièrement. Et je pense aussi ce qu'on vend avec l'étiquette, c'est une forme d'arbitrage des goûts, de crédibilité. Dans le magazine, il n'y a rien qu'on n'aime pas. Il n'y a rien qu'un annonceur nous a forcé à mettre. Quand on va voir des annonceurs pour prendre des pages de pub dans le magazine, parce qu'on va les voir, on sélectionne les annonceurs qu'on aime, des marques qu'on peut assumer dans le magazine, et on ne va pas voir les autres. Hier, il y a une marque de montre qui nous proposait, je crois que c'était 10 000 euros pour faire un publi. Bah, on a dit non, parce que la marque de montre, on l'aime pas. Enfin, on se retrouve pas trop dans les modèles. Dans le premier numéro, il y avait une vanne un peu dure sur Philippe Plein. Je pense que Philippe Plein ne sera jamais annonceur de l'étiquette. Eh ben, tant pis, c'est comme ça. Je préfère mettre une vanne à Philippe Plein, dont je trouve à la fois l'œuvre et l'attitude peu recommandable, et le perdre plutôt que de me compromettre à dire du bien de Philippe Plein et à montrer ses vêtements. Après, je donne de leçons à personne. Vraiment, je fais comme ça, et je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Je fais comme ça. Je dis pas qu'un jour, quand j'aurai besoin de payer des salaires autour de moi, que le magazine vendra moins bien, peut-être. Je touche quand même du bois. Je ferai pas des compromis et j'irai pas taper à la porte de Philippe Plein. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de le faire et on arrive à trouver une réalité économique comme ça. Voilà, c'est ça l'enjeu d'un magazine. Nous, depuis le début de Sopress, on fait des magazines pour qu'ils soient lus. Donc, la réalité économique est l'achat en kiosque. On se bat pour ça. Et c'est sans doute un des trucs qui fait ce qu'on est devenu, qui fait qu'on est Sopress, c'est que les gens s'approprient les magazines. Les gens les aiment, du coup, les gens les achètent. Moi, j'écris pour les lecteurs, j'écris pas pour les annonceurs. Si les annonceurs se retrouvent dans ce que j'écris les lecteurs, tant mieux. S'ils ne se retrouvent pas, je ne change pas ce que j'écris. Ça, c'est la règle. Après,
c'est la philosophie Sopress.
C'est la philosophie Sopress. Ouais. Et c'est la philosophie qu'on a amenée dans le secteur du style, qui est un secteur un peu particulier à ce niveau-là, puisqu'on connaît la proximité entre les annonceurs et les publications. Le fait qu'il y ait évidemment... En fait, il y a la question qu'il faut se poser, c'est... Il y a de moins en moins de gens qui achètent des magazines. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que les magazines sont allés trop loin dans la connivence avec les annonceurs et ont finalement fait des magazines pour les annonceurs avant de faire des magazines pour les lecteurs ? Ou au contraire, est-ce que c'est une conséquence ? Est-ce que le fait que les lecteurs quittent les kiosques fait que les magazines cultivent un rapport avec les annonceurs pour garder un modèle économique, pour trouver de l'argent là où il y en a, puisqu'il n'y a plus de lecteurs ? Je sais pas quelle est la réponse. En tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des magazines pour les lecteurs qui respectent les annonceurs, mais qui sont des magazines pour les lecteurs. Voilà. Voilà, je sais pas si c'est le bon modèle et je sais pas si ça sera pérenne à long terme. Sur les deux premiers numéros de l'étiquette, ça a marché. Les deux numéros ont gagné de l'argent, pour parler de façon un peu
pragmatique
et terre à terre. Les magazines ont plu aux lecteurs. Moi, c'est surtout ça. On a reçu des centaines, vraiment, c'était assez fou, les messages des lecteurs sur ces magazines se sont appropriés, créant une espèce de communauté d'esprit, mais c'est ce qu'on arrive à faire sur les magazines. Les gens qui lisent SoFoot, ils sont fiers de lire SoFoot, ils en parlent, ils se baladent avec dans la rue. Society, c'est pareil. Et l'étiquette, je pense que c'est pareil et que les gens n'ont pas tout à fait l'impression d'acheter un magazine de mode comme les autres. Et moi, c'est à ça que je tiens.
Et puis, en plus, vous avez vraiment fait un gros taf sur l'objet en lui-même.
C'est-à-dire que voilà, nous, on n'a pas fait de compromission. Enfin, on a voulu faire un truc qu'on aime. C'est-à-dire qu'on a assez de travail. C'est-à-dire que voilà, quand on regarde les gens qui font ce magazine, à la fois Sopress, moi, Gauthier, l'atelier Franck Durand qui fait l'ADR, on a tous assez de boulot, quoi. Enfin, c'est
juste. Toucher du bois.
Je touche du bois, et pourvu que ça dure, mais je veux dire.
Vous êtes arrivé à un stage,
On est occupé, quoi. Enfin, on n'avait pas la nécessité de se mettre un fardeau en plus sur les épaules, un fardeau sans plaisir, quoi. Du coup, on fait ce truc-là en se disant, avec l'idée que quand même, on se fasse plaisir, quoi. Donc, que le magazine soit beau, le papier soit beau, que les articles soient des vrais articles de presse, que les photos de mode soient des belles photos de mode. On va sans doute en parler, mais des photos de mode qui ressemblent à ce qu'on imaginait être des photos de mode, c'est-à-dire des photos dans lesquelles on voit le vêtement et pas le travail, et pas la mise en scène, mais le vêtement à proprement parler, avec un photographe qu'on estime super. Et voilà, et donc c'est un magazine qu'on a plaisir à faire. Parfois on en chie et moi je dors pas pendant un mois avant, mais c'est comme ça. Mais c'est un magazine dans lequel on trouve du plaisir, il a une réalité économique et c'était ça l'objectif.
Et d'ailleurs, comment tu fais toi pour... Parce que tu l'expliquais tout à l'heure, mais tu cours plusieurs livres à la fois.
Clairement, il y a beaucoup d'activités. Alors, c'est beaucoup d'organisation. Moi, je suis assez... j'ai beaucoup de listes. Enfin, je suis assez... j'ai un cerveau assez rangé, quoi. Enfin, je pense. Je sais pas si c'est...
Et t'arrives à fermer les tiroirs à chaque fois?
Ouais, plus ou moins. Il y a des moments... En fait, ce que j'arrive pas à faire, c'est à ne pas y penser. À ne pas penser au travail. Et ça, mes proches pourraient en témoigner. Je pense toujours au travail, quoi. En vacances.
T'as un obsédé du travail.
Je pense qu'on peut le dire comme ça. Et j'ai pas de vie sociale, par exemple. À chaque fois qu'on m'interviewe, je le raconte, mais j'ai pas d'amis. Enfin, j'ai pas d'amis. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens que j'adore et je pense que j'ai une bonne relation avec les gens, mais je vois pas de gens en dehors du travail. Je sors pas le soir, jamais. Mais genre, jamais dans l'année, quoi. Je vais pas aux fêtes. Enfin, moi, je suis sur mon téléphone, sur l'ordinateur du matin au soir. Je me lève à 4 heures. Très souvent pour travailler, j'aime ça. J'aime que les choses soient plutôt bien faites que mal faites. Alors effectivement, c'est très chronophage. Et en termes d'esprit, ouais, c'est constant, quoi. C'est tout le temps. Je peux être avec les enfants, mais je pense à des fois je m'en veux parce que je passe sans doute à côté de choses. Mais comme j'ai 3 enfants, je suis souvent évidemment naturellement à les garder, mais je pense à d'autres choses. Enfin, c'est beaucoup de travail et faut que ça plaise. Enfin, des travaux qui sont chiants parce que parfois j'en ai, je mets du temps à les faire, c'est laborieux. Mais comme j'aime, ouais, effectivement, c'est non-stop et c'est permanent et ça se fait tout seul, ouais, sans que j'aie à me booster. Mais c'est beaucoup d'organisation, c'est un rythme, c'est comme un muscle, quoi. L'écriture, c'est un muscle. Le fait d'avoir des réflexes, par exemple, sur quotidien, maintenant ça commence à faire quelques années, du coup j'ai un peu des réflexes, je vois les choses, je me dis tiens ça peut marcher, comme ça va plus vite qu'au début. Et puis voilà, j'aime bien.
Mais typiquement, partage-nous un petit peu tes tips parce que tu vois, je pense qu'on est, y a plein de gens comme ça qui ont plein d'activités et moi le premier avec mon podcast, ma marque, etc. C'est comment t'arrives à mener de front des gros projets qui sont aussi importants et où il y a des vrais enjeux, où il y a des équipes qui travaillent avec toi, etc.
Déjà, je fais ce qu'il faut dire, c'est que je fais pas les choses tout seul. Stéphane qui travaille à Society, c'est un génie. Gauthier, il est méga fort. Enfin, faut t'entourer de personnes qui sont fortes. Enfin,
bien sûr.
Franck, les deux d'ailleurs, Franck Hannes, Franck Durand, c'est des génies dans leur domaine. Enfin, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple quand on est entouré. Donc déjà il y a ça. Après il y a la capacité à travailler fort et longtemps, quoi. Effectivement, moi j'ai renoncé à une forme de vie sociale inconsciemment, mais ma vie s'est construite comme ça. Donc ça, faut déjà en avoir envie. Je sais pas si c'est un modèle de vie pérenne et je sais pas si c'est un modèle de vie recommandable. Alors après, moi, de façon très concrète, je me lève tôt. Je me lève très souvent à 4 heures du matin quand je suis en période de boulot. 6 heures, c'est la norme.
Grasse mat.
Ouais, à 6h c'est la grasse mat. Je commence à travailler direct, pas de café, rien, je prends l'ordi, j'ouvre et hop, j'enchaîne. J'ai pas de routine matinale ou alors elle est complètement inavouable. J'ai pas du tout de conseils lifestyle en fait. Hormis le vêtement, je conseille pas aux gens de vivre comme moi. Après, je travaille aussi le soir. C'est-à-dire, je rentre, je travaille après manger. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai des listes. Alors, j'ai beaucoup de listes. J'ai des listes de malades mentales avec des pictos. J'entoure.
Papier.
Téléphone, j'ai d'autres listes. Téléphone, j'ai les listes plutôt loisirs, choses à faire, aller à la retouche, aller au pressing. Enfin, c'est assez problématique, ces listes. Mais en tout cas, ça m'aide parce que j'ai l'impression que quand c'est écrit, c'est un peu fait. Ce qui est dur, c'est d'avoir des choses dans l'esprit qui traînent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un vrai tips pour ceux qui En fait, c'est de faire tout de suite. Moi, je pense à un truc, je le fais. Je dis pas, ah tiens, ce soir, faut que j'écrive un message pour demander à Étienne Dao s'il veut bien être l'invité du podcast. Je fais dans la seconde, quoi. Un mail, je réponds direct. Je laisse jamais traîner. Vraiment, je procrastine pas du tout. En fait, sur les choses immédiates, je les fais vraiment tout de suite, quoi. Parce qu'en fait, ce qui est dur à vivre, je pense, c'est tout ce qui traîne dans l'esprit. Ouais. Tout ce qui n'est ni écrit ni fait. Donc moi, c'est soit écrit à faire, soit c'est fait. Parce que je le fais vraiment tout de suite. Voilà. Après, il y a pas beaucoup de secrets. Je travaille par étapes, beaucoup par couches. Mmh. C'est-à-dire que par exemple un texte ou une chronique, je commence un truc, je laisse infuser, je reviens dessus. Je fais pas tout d'un coup. Par exemple, le texte du M qui me prend, c'est pas une demi-journée ou, mais c'est l'addition de plusieurs heures de trois séances de deux heures. Plutôt que d'une séance de 6 heures complète. Je fais, je pose, je reviens. J'aime bien faire ça sur l'écriture. Laisser mûrir les choses, revenir et finaliser comme ça par étapes. Donc ça prend un peu de temps. Du coup, il faut s'organiser. Il faut commencer plus tôt pour pouvoir rendre à l'heure, etc. Mais j'aime bien faire ça. Et puis, sinon, c'est marrant parce que souvent, j'ai un rapport quand même assez visuel aux choses. Quand j'écris, j'ai besoin que ce soit formellement assez cadré. J'aime bien faire le chapeau en gras, faire le. Enfin, ça, c'est vraiment des conseils pour les gens qui écrivent. Je sais pas si qui écrivent sur la mode ou sur autre chose. Enfin, c'est ce que je fais moi, en tout cas, c'est que j'écris le chapeau, j'écris le titre, je saute les paragraphes. Enfin, quand la forme est me semble homogène et ergonomique d'une certaine façon, je rentre dans le détail, je peaufine, je mets les mots, je change les virgules. Moi, ça, c'est les conseils de pure écriture. Sinon, pour le reste, ouais, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de travail et une vie de moine. On peut dire ça comme ça.
Et ta femme ne te le reproche pas?
Si, ouais. Elle me le reproche. Si. Ouais. Bien sûr, je suis chiant à vivre. C'est-à-dire que je suis chiant à vivre parce que quand je suis là, même quand je suis là, je suis pas là, quoi. Mm. Enfin, c'est pas 100% du temps parce que c'est quand même, là, je fais la description d'une vie un peu apocalyptique. C'est pas 100% du temps, mais ouais, avec Gauthier, par exemple, de 7h du mat à 23h, c'est des messages, quoi. Alors, il y a des pauses, mais tout le temps. Moi, j'envoie, le jour, j'ai compté 150, enfin, je sais plus, c'est 150 SMS ou mails par jour. Mais j'en envoie vraiment beaucoup. Alors, je déteste appeler. Je passe jamais de coup de fil. Je réponds toujours par mail ou SMS. J'aime pas du tout appeler les gens ou être appelé. Du coup, je décroche pas au téléphone ou quasiment pas. Par contre, je fais beaucoup de SMS et de mails. Ça, j'ai l'impression que je gagne du temps, mais c'est peut-être faux d'ailleurs, je sais pas trop. Je prends beaucoup le Uber. Enfin, ça, c'est un truc que une résolution que j'ai pris de moins en prendre parce que c'est pour pouvoir travailler à l'arrière du taxi ou du Uber, quoi. Mais ça, c'est pas bien. Enfin, je le sais. Et puis, c'est quand même un modèle économique totalement injuste. Je suis pas du tout favorable à Uber dans le principe, mais je dois avouer que la réalité fait que j'en prends souvent. Pour pouvoir travailler à l'arrière du véhicule. Et voilà, les modestes conseils que je peux donner.
Et travailler avec ses potes, parce que j'ai l'impression que c'est du multiple, ouais. Tous ces gens.
Ouais. Ouais, pour moi, c'est le scénario naturel. J'ai eu des périodes où j'ai découvert des entreprises, quoi. Enfin, quand j'étais à l'équipe. Aux Arocs, c'est des gens que je connaissais pas, qui sont devenus mes potes, mais c'est des gens que j'ai découverts. Après, effectivement, moi, je me verrais pas travailler dans une entreprise où on acte des réunions, où il y a des process. Enfin, les journalistes sont assez peu réceptifs à ce genre de choses, sont assez peu réceptifs à une hiérarchie très nette, sont plus réceptifs à l'échange, veulent de la liberté dans l'organisation. Veulent pouvoir ne pas venir un jour mais travailler tard le week-end. Moi, c'est comme ça que je me suis construit professionnellement. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours travaillé en plus de chez moi le soir. Et en même temps, en après-midi, si je veux aller voir un copain ou aller chez un tailleur, enfin, je ne sais où, je peux le faire parce que je sais que je travaillerai le soir. Enfin, en fait, un journaliste. Moi, c'est quelqu'un que j'avais croisé qui me disait un bon journaliste, c'est un journaliste qui n'est pas à la rédaction. Il sous-entendait par là pas que le journaliste devait se reposer chez lui, mais que le journaliste devait être sur le terrain. Et donc voilà, ça crée une forme de fluidité ou de liberté, évidemment. Et puis, ce qui est important, c'est que l'article soit rendu à l'heure et qu'il soit bon. C'est pas qu'il y ait du temps de présence. Je suis assez peu réceptif à ce genre de mode de fonctionnement, mais bon, je suis pas confronté à ça. Je suis pas confronté au pointage ou à l'entreprise avec des process. Et tant mieux, parce que voilà, je bosse avec mes potes et ça crée un rapport différent à la hiérarchie, à l'entreprise. Après, ça ne peut marcher que quand les gens prennent leurs responsabilités, que quand les gens sont responsables. Et je pense que la responsabilité des gens qui, dans une entreprise, elle vient par une forme de plaisir dans le travail. On est responsable, on est professionnel, on est vigilant quand on aime ce qu'on fait. Quand on fait un boulot qui n'est qu'un boulot alimentaire, effectivement, qu'on rate une journée ou qu'on rentre pas à l'heure, on s'en fout un peu, ouais, ouais. Donc voilà, moi je fais des boulots qui sont des boulots passion pour les gens. Et du coup, je suis confronté à des gens qui sont assez fluides dans leur façon de fonctionner, qui sont plutôt par ailleurs bienveillants. Voilà, donc travailler avec ses potes, pour moi, c'est en fait, je n'ai jamais travaillé qu'avec des gens qui sont devenus mes potes ou qui l'étaient même avant. Du coup, pour moi, c'est la norme. Et ça m'a jamais posé trop de problèmes. Et d'ailleurs, heureusement que je travaille avec mes potes, parce que bon, mes potes, je les vois qu'au travail. Ce que je disais, j'ai pas d'amis le soir. Mais en fait, parce que toute la journée, je travaille avec mes potes. Stéphane, avec qui on fait Society, c'est mon pote. Franck Hannes, c'est mon témoin de mariage. Gauthier, j'adore le voir, parler avec lui. Franck Durand, pareil. Quotidien, c'est pareil. Marie-Pierre Lannelongue, OM, c'est une amie. Enfin, ouais, je travaille qu'avec des potes, quoi.
Juste pour revenir sur le modèle économique de tous ces médias, Sopress, tu parlais tout à l'heure de production, de coproduction, enfin de content,
ouais.
Etc. Explique-nous. Ça fait vraiment partie. C'est essentiel dans le.
Ouais, c'est une. Alors alors il y a plusieurs choses. Dans ce presse, donc il y a l'activité presse, magazine, il y a de la production, c'est-à-dire qu'on fait de la production vidéo. Pour le coup, je m'en occupe assez peu, mais je le vois faire au bureau. On produit des pubs, télé, web, on produit des clips, on fait des documentaires. Donc ça, alors, ce sont des agences publicitaires qui nous demandent pour des marques qui nous demandent à direct, des chaînes qui peuvent nous commander des documentaires. Donc ça, on sait faire ça, on a un pôle de réalisateurs. Et puis, il y a le content, qui est une activité moindre que la production, mais qui reste une activité signifiante. Le content, ça veut dire de produire du rédactionnel non signé pour des marques. Donc on fait un site de musique qui s'appelle Green Room, qui est financé par Heineken. Donc on livre des articles à Green Room sans que le nom de Sopress apparaisse nulle part. On fait aussi le magazine de Roland Garros. Donc on le produit. Pour le coup, je crois qu'on fait que le contenu, pas l'impression ou la maquette. Donc on livre les articles. Par exemple, moi j'ai fait Berluti. Alors ça, c'était Perso Press. Ouais. Berluti, j'ai longtemps écrit pour tout le contenu, c'est-à-dire le site, les histoires, les fiches produits de Berluti. On faisait ça à Sopress. C'était pas signé par Sopress. C'était un boulot.
Même pas par toi.
Non, même pas par moi. On leur donnait et c'était ça marchait comme ça. C'est ça le content. C'est une marque qui te contacte, qui aime ta façon d'écrire et qui a besoin de contenu et qui te fait produire du contenu en marque blanche. En marque blanche, c'est-à-dire non signé. Donc moi, ça m'arrive d'en faire, et Sopress, on en fait. Et c'est pas un boulot facile, c'est-à-dire que pour les journalistes, souvent, c'est perçu comme peu noble.
Ouais, basse besogne.
C'est sûr que c'est pas. Personne n'a la vocation de rédacteur de brand content. Moi, il n'y a pas le Joseph Kessel du brand content qui aurait inspiré des milliers de gamins à 12 ans à devenir faiseur de brand content. Ça n'existe pas. Les gens veulent devenir journalistes. Et tant mieux. Mais la réalité est telle que, effectivement, c'est difficile de décliner ces propositions-là quand elles sont rentables. Ça fait partie de l'équilibre financier qu'un groupe doit trouver. Nous, ce brand content-là, concrètement, il nous permet de financer des reportages, d'envoyer Léo pendant une semaine en Amazonie pour couvrir les feux en Amazonie. C'est ça la réalité de notre travail. C'est ça la réalité de notre modèle économique, tout à fait concret. Quand on fait du brand content qui nous rapporte X milliers d'euros, Ça nous permet de financer des reportages que les autres magazines ne financent plus. D'envoyer un mec de Paris en Amazonie, ça coûte de l'argent de l'y laisser une semaine en se disant que potentiellement il va pas trouver l'histoire parce que c'est très compliqué de travailler là-bas, de faire bosser aussi un photographe sur le sujet. Il y a peu de magazines, il y a plus de magazines quasiment qui le font en France. Les gens font bosser soit les correspondants, soit écrivent depuis leur bureau des articles. Nous on fait ça, on envoie des gens aux États-Unis très souvent. Et la réalité de la presse en France est que si on n'avait pas des activités parallèles autour des magazines, ce serait plus compliqué pour nous de faire ça. On fait ce calcul-là, on l'assume. On cache pas qu'on fait du brand content, on cache pas que on fait de la prod, parce que ça nous permet de faire du journalisme de qualité après.
Mais vous perdez pas en indépendance en faisant ça.
Non, c'est une question qu'on se pose, tu vois. Quand on travaille pour une marque qui nous demande de produire du content, est-ce que on est à l'aise avec l'idée, un an après, de révéler un scandale sur la dite marque? Alors, je vais rassurer les gens. Oui, on est à l'aise à le faire. On l'a déjà un peu fait, pour être tout à fait exact, sur des cas précis. Sur Bolloré par exemple, sur Canal+, on travaillait avec eux sur des choses, et bon, quand il a fallu sortir une enquête sur Canal+, Bolloré, on l'a fait. Les cas sont assez rares, mais on est prêt à le faire, et quand Berluti me demande, nous fait produire du contenu, c'est pas pour ça que dans l'étiquette je mets du Berluti. Il y en a très peu eu d'ailleurs. C'est pas sciemment qu'il y en a très peu, c'est comme ça, il y en a très peu eu.
Il n'y a pas eu l'opportunité.
Ça s'est pas fait. Puis parce que peut-être les collections nous posaient moins. Enfin voilà, on garde notre indépendance. Si ça plaît pas aux marques, ils nous le disent. Elles n'annoncent plus chez nous et c'est ainsi. Si ça, les marques sont d'accord avec ça, c'est tant mieux pour nous quoi. Nous, on renoncera pas à l'indépendance. Enfin, on ne fera pas des magazines vendus. Mieux vaut ne pas en faire que faire des magazines vendus selon nous. Donc voilà, il y a des marques qui comprennent très bien ça. Il y a des marques qui me sollicitent en disant on a un event, on ouvre une boutique, vous pourriez en parler. Non, moi j'en parle pas, je le fais pas. Alors je le dis pas violemment parce que c'est pas d'une, c'est pas ma nature, et de deux, y a pas besoin d'être violent pour dire non. On le fait pas. Il y a des marques qui comprennent que ce qu'on essaye de faire avec l'étiquette, par exemple, mais c'est pareil avec les autres titres de groupe, c'est de faire des produits de qualité, des produits intelligents, des produits qui ont une plus-value pour le lecteur. Et que d'être associé à ça, c'est bon pour les marques. Et c'est sans doute meilleur que d'être associé à un magazine qui ne ferait que passer la brosse à reluire aux marques. Moi, ça m'arrive parfois de rencontrer des annonceurs qui me disent... on veut plus annoncer dans tel magazine, je citerai pas de nom, parce qu'ils ont fait, on voit que c'est vendu, ils parlent que des marques, ça nous intéresse plus. Mais quand on creuse, on s'aperçoit que la marque qui me dit ça, c'est la marque qui a demandé il y a 5 ans à ce magazine de parler de l'ouverture de la boutique ou du nouveau modèle, enfin de servir la soupe. Donc il y a un paradoxe comme ça. Il y a des marques qui comprennent pas trop notre propos, qui comprennent pas, qui ont été peut-être mal habituées ou qui attendent qu'un magazine soit d'abord un objet publicitaire maquillé sous du rédactionnel et qui donc se disent ah bah s'il y a pas mon full look, je n'irai plus dans l'étiquette. Nous on refuse de le faire. Et il y a des marques, fort heureusement, il y a des marques hyper intelligentes. Je sais pas si c'est la majorité, j'aurais du mal à donner un pourcentage là-dessus, mais il y a des marques où l'intelligence dirige et qui se disent ces mecs-là, ils vont essayer de faire un truc bien, ils vont y arriver ou pas, ça c'est chacun pensera ce qu'il veut, mais ils vont essayer de faire un truc bien, un truc indépendant avec de la personnalité, ils vont travailler. On va peut-être s'y retrouver à être associé à eux. Et nous on mise là-dessus. Est-ce que c'est le bon calcul? Est-ce que c'est pas le bon calcul? J'ai pas de leçon à donner, c'est juste ce qu'on veut faire nous quoi. Voilà.
Et ça vous arrive d'avoir des pressions politiques ou des pressions d'entreprise? Je parle plus peut-être pour Society.
Ouais, franchement très peu.
Ouais.
Nous on révèle pas des scandales, on n'est pas Mediapart, on est plutôt dans
Ouais, mais vous apportez des sujets.
Ouais, on apporte des sujets, non ouais. On a des pressions, oui, des... j'ai pas d'exemple en tête, mais des gens qui portent plainte, des attaques en diffamation qui souvent nous sont, avec des jugements qui nous sont en général très favorables. On en a, Nous, on est plus une presse de récit que de révélation pure, comme Mediapart. Mais quand même, on aborde des sujets qui sont importants, qui peuvent déranger certains pouvoirs au sens large. On essaye de nous séduire, quoi. Enfin, c'est, voilà, quand on rencontre un politique, on est bien sûr, ah, Society, j'aime beaucoup Society. C'est pas toujours le cas, ils aiment pas toujours Society. Surtout, ils te connaissent pas toujours aussi bien qu'ils veulent bien le dire. Mais enfin, ça fait partie du jeu. Nous, on essaye de faire, on a des journalistes qui sont maintenant tous assez matures et qui savent faire la part des choses. Et à qui on ne dit jamais, tu ne peux pas écrire ça parce qu'on connaît tel machin, parce qu'on a demandé tel local. D'ailleurs, on ne demande pas le local à personne. Mais enfin, je veux dire, on essaye de protéger nos journalistes de ce genre de trucs, de les mettre à l'abri d'espèces d'intérêts contradictoires. J'ai l'impression qu'on y arrive. Après, chacun jugera. Enfin, vraiment. Par ailleurs, là, j'ai l'impression de donner des leçons. Et enfin, j'espère ne pas donner cette impression-là, non, en tout cas, parce que je raconte comment on le fait et ça me passionne. J'ai la science infuse sur rien. Je tiens à le dire. Enfin, voilà. Je raconte comment on le fait, quoi.
Ça c'est dit. C'est bien. La question, enfin, ça fait un bout de temps que t'es dans l'univers de la mode, que tu baignes dans cette industrie. Comment tu vois évoluer les choses? Enfin, comment t'as vu déjà évoluer les choses?
Non, en fait, tout le monde dit, j'ai l'impression que à quelque époque que ce soit, on trouvait que c'était mieux avant. Ouais. Moi, je suis à la croisée de deux mondes, du coup, le journalisme et la mode. Et je ne peux que constater que le rapport de force est défavorable à la presse, aux médias, par rapport aux maisons de mode. Qui gagne de l'argent aujourd'hui? Les maisons de mode. Qui a le pouvoir? Les maisons de mode. Qui a l'argent? Les maisons de mode. Donc c'est compliqué. Donc, quand une maison de mode, quand un groupe met la pression sur un magazine, le magazine fait ce que le groupe de mode dit. Quand je lis certaines réactions à certains défilés, quand je vois... En fait, le journaliste, c'est quand même... à des couleurs différentes, dans une échelle de nuances différentes, dans des cadres différents, c'est quand même un contre-pouvoir. Qu'on le veuille ou non, le journaliste, c'est ça. C'est un contre-pouvoir. Alors, je veux bien qu'on soit journaliste que mode, que simplement journaliste de mode et que ce soit moins grave. Mais quand même, enfin, moi, je suis toujours, j'ai des amis dans les maisons, dans les marques et tout ça, mais je vais très peu au défilé, moi. D'abord parce que c'est pas mon cœur de travail. Je vais très peu aux soirées, aux voyages de presse, j'y vais jamais. J'en ai fait un, faut être honnête, j'en ai fait un. Mais pas si longtemps. Mais je dis non à 99%, c'est la première fois que j'en faisais un.
Pourquoi t'as dit oui?
parce que c'est des gens avec qui je m'entends bien humainement et dont j'aime bien les produits, enfin dont j'aime bien le travail. C'est une maison assez particulière, enfin voilà, une maison française que j'aime beaucoup. Mais je pense que la position normale d'un journaliste est de décliner les invitations. C'est un peu paradoxal parce que le défilé, c'est un moment de travail. Je pense qu'effectivement, les journalistes doivent y être. Mais les journalistes ne sont pas obligés, à mon sens, de faire une photo sur Instagram pour dire que c'était sublime. Qu'ils le pensent ou pas, d'ailleurs. Qu'ils le pensent, ils l'écrivent dans leur journal. Qu'ils le pensent pas, et je pense que parfois ils le pensent pas, mais ils l'écrivent. Ça me pose un vrai problème. Les voyages de presse, fondamentalement, c'est pas aux maisons de marque d'inviter les journalistes en voyage, quoi. Ça me gêne toujours un peu. Après, voilà, encore une fois, je donne pas de leçons, hein, mais moi, je garde l'idée que le journalisme est une forme plus ou moins nuancée de contre-pouvoir. Et moi, j'essaye de faire gaffe à ça. Et je constate que le pouvoir aujourd'hui, il est dans les maisons.
Mais ça n'a pas toujours été le cas.
J'ai du mal, j'ai pas de recul parce que moi, ça fait, je sais pas, 15 ans ou 10 ans que je vois ça. Je sais pas si c'était différent avant, si avant une maison, si avant un magazine, un journal pouvait descendre un défilé d'un annonceur. Je sais pas si comment c'était avant. J'ai l'impression que c'est plus le cas aujourd'hui, qu'on peut plus dire vraiment ce qu'on en pense. Moi, on me demande pas d'écrire sur les défilés. Je saurais pas le faire. Enfin, c'est pas mon expertise. À la limite, je pense que quand on n'aime pas, Pour passer entre les gouttes, il faut ne pas écrire dessus, quoi. Je demande pas au Figaro ou à quelques magazines que ce soit d'écrire un brûlot sur une collection qu'il aimerait pas d'un annonceur. Je suis pas totalement utopiste, mais ne pas en parler me semblerait être un espèce de compromis acceptable. Mmh. Mais je constate que c'est difficilement le cas parce que les annonceurs, enfin les groupes sont devenus ultra puissants. Moi ce que j'aime dans le vêtement, c'est que c'est un objet culturel. Et pour moi, le vêtement raconte comment on vit, les effets de domination, qu'est-ce qu'un power suit, pourquoi le costume raconte le pouvoir, pourquoi on se libère du costume, pourquoi les poches sur les vêtements des femmes sont plus petites que sur les vêtements des hommes, parce que les femmes avaient des sacs à main et les hommes n'avaient pas de sacs à main, il fallait mettre les hommes devaient mettre des objets, des clés, enfin étaient historiquement comme ça les détenteurs de plein de choses, de l'argent, enfin de plein de choses du coup, et puis ils faisaient des métiers manuels, ils avaient besoin de mettre des outils, il y a beaucoup de vêtements d'origine utilitaire qui ont des poches pour mettre des outils, pour mettre des règles, pour mettre des marteaux sur un painter pants, c'est un pantalon de peintre. Il y a une poche pour mettre les outils et les pinceaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et c'est la culture par le vêtement. Je trouve ça passionnant et je trouve que c'est très révélateur. Il y a beaucoup de gens très intelligents qui ont écrit sur le vêtement de Barthes à Nietzsche. Enfin, je vais pas citer des noms comme ça pour le plaisir, mais c'est révélateur. Ce qui m'intéresse, c'est ça. L'industrie de la mode, le cirque de la mode, l'obsession de la mode pour faire acheter, parce que c'est ça la mode, une collection effaçant la précédente, ça m'intéresse beaucoup moins. Parce que là, on est dans l'industrie, on est dans la marketing, on est dans la vente, on est dans comment je pousse les gens à jeter ce qu'ils avaient dans leur placard pour mettre autre chose. Donc là, on n'est pas dans la culture, ça se fabrique sur le temps, la culture, ça se cultive. La mode, ça efface, ça brûle. Ça, c'est il y a la culture contre la culture de
marketing,
ouais, contre la culture de brûler, de la terre brûlée, quoi. Une collection de mode, effectivement, je comprends bien que c'est ringard de porter la paire de chaussures ou la veste de 2017 alors qu'on est en 2019. Enfin, je vois très bien le drame que ça peut créer. Mais pour moi la mode, c'est l'inverse de ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'inverse de ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on cultive. Donc que ça prenne du temps, donc que ça se peaufine, donc que ça vienne de quelque part et non pas d'un endroit où finalement la réflexion c'est comment je vais pousser les gens à reacheter. Et je constate que effectivement le pouvoir, les cycles de mode s'accélèrent, il y a de plus en plus de défilés, de plus en plus de collections.
C'est-à-dire que les magazines de mode ne jouent plus du tout leur rôle qu'ils jouaient dans les années 60, 70.
Ouais, moi j'aime bien dans l'étiquette, c'est ce qu'on essaye de faire et qui est un peu une obsession, c'est le côté serviciel. Et comment s'habiller? En fait, la question c'est que un magazine de mode qui pour moi a du sens. Mais il y a plusieurs conceptions qui s'opposent. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'un magazine de mode doit faire rêver. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je pense pas du tout ça. J'ai pas besoin d'un magazine de mode pour rêver. Je pense qu'un magazine de mode doit expliquer aux gens comment s'habiller. Mais de façon très simple, précise, concrète, pragmatique et réaliste. J'entends par là que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un manteau à 8000 euros. Donc dans l'étiquette, on essaye de mélanger les gammes de prix, on essaye de faire des looks très simples dans lesquels on voit le vêtement, c'est sur fond blanc. Alors les mecs sont beaux, mais aussi au début du magazine, il y a des gens plus forts, plus gros, plus petits, plus vieux, plus poilus, parce qu'on aime bien ça, des gens qui ont du style, mais qui sont pas des mannequins. Moi j'aime bien ce côté-là, j'aime bien le vêtement. J'aime bien le vêtement, en fait. Le vêtement, c'est-à-dire un truc qui se porte. Moi, des photos de mode où on voit pas le vêtement, où le mec ou la fille est allongée sur le sable avec un chameau qui passe au fond et un aigle dans le ciel et une lumière de dingue, ça m'intéresse pas. Je trouve que artistiquement, c'est souvent pas très beau. Et qu'en plus, on voit pas le vêtement. Souvent, quand la tenue est ratée, on essaie...
des caisses derrière.
Ouais. Quand tu mets un mec sur un fond blanc qui se tient droit, qui sourit et qui bouge pas,
ça pardonne pas.
Ouais. Ça pardonne pas si le pantalon est pas bien coupé. Et moi, ce que j'aime, c'est que le pantalon soit bien coupé. Et c'est ce qu'on fait avec l'étiquette. Avec Gauthier, c'est des heures de, on fait les silhouettes, on les refait, on va chercher, on va acheter des trucs, on ramène, moi, à chaque fois avec Gauthier, on ramène nos garde-robes entières pour, tiens, cette paire de chaussures-là, c'est la même, mais celle-là, elle est 70, elle est plus usée, mais là, plutôt, enfin, on est des ayatollahs de ça. On adore être précis. Mais on est en même temps, on veut s'adresser au plus grand nombre. On veut transmettre un goût de choses simples, bien faites, et du vêtement, le vêtement quoi, le vêtement, ce truc tout con qu'on met chaque jour, qui est le vêtement. Le vêtement est plus, pour moi, plus intéressant que la mode. Et c'est un peu mon petit combat. Il est modeste, hein, mais j'adore ça. On aime beaucoup ça. Et par exemple, je trouve que c'est qu'on a perdu quand même un espèce de lien entre combien ça coûte à faire et combien ça coûte en magasin. C'est un peu c'est assez fou quoi. C'est-à-dire que la qualité, le luxe, c'est quand même une certaine, c'est quand même un temps passer à fabriquer un produit. Le luxe, c'est ça. C'est une veste qui a mis 80 heures à faire dans les ateliers de Lorenzo Schifonelli, par exemple. C'est du luxe. Du coup, ça vaut cher. Une Crocs Balenciaga, ça ne peut pas valoir 500 ou 600 euros.
Parce que le 300. Temps passé dessus, c'est pas possible. Enfin,
parce
le temps passé
ça coûte
dessus.
1 euro à faire.
Ouais.
Ce lien-là, il est crucial et je pense que par beaucoup de maisons, il a été cassé. Et que des gens aient l'impulsion d'acheter la Balenciaga à 500, la Crocs Balenciaga à 500 euros, moi, ça me sidère. Enfin, c'est de l'annihilation, quoi. Enfin, je trouve ça fou. Alors, Balenciaga sera jamais annonceur dans l'étiquette, et c'est comme ça. C'est pas la mode dont je veux parler. C'est pas le luxe que je défends. Et voilà.
Est-ce que t'as le sentiment que la mode intéresse encore les gens aujourd'hui?
Bonne question. Je sais pas parce que mode, ça veut rien dire. Enfin, mode, ça veut tout dire et rien dire. En fait, j'ai l'impression que le show de la mode, l'industrie, ce truc-là, intéresse de plus est de plus en plus exposé et intéresse de plus en plus de gens, sans doute. Les défilés qui étaient des événements professionnels sont désormais vus par des millions de personnes. Et je pense que ça contribue à une espèce de chosification du défilé, enfin du chosification avec SHOW, on le transforme en show quoi. Et c'est-à-dire que alors il faut le faire dans un endroit de dingue. Il faut le faire avec un groupe de dingue. Il faut le faire avec les mannequins
de dingue. Ouais.
De dingue. Et les gens sont épatés par ça. Avant, quand les professionnels regardaient des défilés, quand les gens avaient été avertis à ce qu'ils voyaient, il y avait une exigence. Et l'exigence, elle se plaçait où? Elle se plaçait sur le vêtement. C'est toujours ce chiant de dire que c'était mieux avant, mais je sais pas, des défilés de Gauthier chez Hermès, de Margiela, de McQueen, c'est des vêtements quoi. C'est des vêtements. Et autant moi je suis pas un grand expert de la mode féminine, mais les défilés de McQueen, c'est assez fou en termes d'émotion que ça suscite et de beauté que ça crée et de vêtements quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'exigence sur le vêtement est beaucoup moins grande parce que les gens qui regardent ça sont vite époustouflés par le cadre, par le fait qu'il y ait Kim Kardashian au premier rang. Je pense que les gens s'intéressent plus, si on entend par mode le mot vêtement, je pense que les gens s'y intéressent plus vraiment. Si on entend par mode le mot spectacle de la mode, alors là, oui, les gens souscrivent à ça, les gens like, les gens relike, les gens regardent les défilés en streaming et les gens mangent cette soupe-là, quoi. Moi, ça m'attriste un peu. Ça m'attriste un peu. Enfin, ouais, moi, ça me parle pas, ce truc-là. J'ai l'impression qu'en mettant des choses autour du vêtement, on affaiblit le vêtement, on le tue quoi. Et j'ai l'impression que des marques se sont construites sur des influenceurs, sur, avec un grand I, parce que des sacrés influenceurs pour certains, se sont construits sur un espèce de, sur des symboles, sur du vent plutôt que sur du vêtement, quoi. Il y a des, ouais, c'est compliqué cette époque, je trouve, pour le, j'aime beaucoup Slimane, par exemple. Je trouve que Slimane, d'ailleurs, il y a des gens qui aiment la mode, qui souscrivent pas trop à ce qu'il fait. Moi, ça me parle parce que je vois d'où ça vient, je vois la culture derrière. Je vois que quand il dessine une collection, les dernières en l'occurrence pour Céline, je sens des je sens que le mec a lu des livres, a regardé des images, a regardé des films et que ça a infusé sa pensée. Je sens que ça vient de quelque part. Moi, j'adore ça. J'adore quand
la référence. Ouais.
Je trouve. Alors, c'est passéiste peut-être, c'est vintage. Je sais pas. Chacun dira ce qu'il veut. Mais ça, ça m'intéresse. Ça, je trouve ça profond. Je trouve que ça résonne. Je trouve que c'est beau par ailleurs. Très souvent, les phénomènes. C'est quand même fou qu'une collection brûle la précédente, quoi. Ça dure 6 mois les fringues. Ces fringues si révolutionnaires, au bout de 6 mois, elles sont périmées. C'est dommage, quoi. Enfin, ça m'intéresse pas, quoi.
Et c'est quoi le rôle de la mode alors aujourd'hui?
Le rôle de ce que ça devrait être, c'est d'habiller les gens. Pour moi, c'est un truc.
C'est aussi simple que ça.
D'habiller les gens et de mettre du beau dans la vie des gens, quoi. De mettre du plaisir, du beau dans la vie des gens, quoi. Et c'est pas de piquer le fric des gens, quoi. Grosso modo, c'est ça. Je pense que plus on est cultivé, plus on connaît la mode, moins on achète. Grosso modo, je suis persuadé que plus on connaît la mode, moins on achète de fringues. Et c'est un peu fou, quoi. Moi, j'achète de moins en moins de fringues. Alors que j'aime de plus en plus la mode. Enfin, je vais chercher des trucs. C'est rare que j'aille dans des magasins de luxe, quoi. Soit mes dépenses, c'est soit de me faire faire des costumes, soit d'acheter des trucs vintage. Mais ça veut dire quoi en fait? C'est assez révélateur du fait que la mode ne produit plus des trucs qui stimulent les gens qui sont avertis. Ça veut dire que la mode parle au gogo, quoi. Enfin, pas tous, pas tout le monde, heureusement. Mais c'est quand même fou de faire ce constat-là, qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a pas grand-chose qui nous excite quand on est averti, cultivé sur le sujet. Ouais, je trouve ça dommage. Enfin, vraiment, ça m'attriste un peu. Ça m'attriste. C'est pas un drame. Hein, personne n'en meurt, mais j'aime bien quand, ouais, c'est ça dommage que la mode ne porte plus une culture. Alors, ceci dit, il y a des maisons récentes, enfin des maisons actuelles, qui ont fait des choses, qui ont porté des symboles. Il y a des marques qui se sont impliquées dans la diversité. Qui ont fait des étendards autour de la diversité. Il y a des marques sans doute qui, dans quelques mois ou c'est maintenant, vont se mettre à la pointe d'une forme de combat écologique. Donc les marques, tu vois, on va plus parler d'eux par leur dimension diversité ou leur dimension écolo que par
le vêtement
lui-même. Mais moi, peut-être un peu cynique, mais je peux pas m'empêcher de penser que quand une marque se met à la pointe d'un combat de ce type-là, elle pense que ça va servir ses ventes. Elle ne pense pas à faire le bien pour la planète.
Surtout venant de grands groupes comme ça.
Ouais, surtout venant de grands groupes. D'ailleurs, l'écologie, enfin, une marque écolo, moi j'en connais, je suis très copain avec Sébastien qui fait Véja, je trouve ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Mais quand je vois certaines marques se lancer dans des combats écologiques, ça m'amuse, enfin, ça me fait sourire parce que déjà, le fait d'avoir une marque, ça peut pas être, enfin, produire est anti-écolo par nature. Il faut l'assumer. Mais une marque elle peut limiter les dégâts, mais une marque ne sera jamais totalement écolo par nature. Enfin, je veux dire,
c'est prendre des ressources.
Ouais. C'est prendre des ressources mécaniquement, quoi. Ouais. Il faut limiter les dégâts, tout ça. Mais bon, moi, je mange pas trop ce pain-là, quoi. Cette soupe-là, quoi. J'aimerais bien que les marques fassent des beaux vêtements. C'est juste, un peu simple, mais...
Juste des beaux vêtements.
Ouais, ouais, en vrai, je pense que c'est ça le sujet, quoi.
Ouais. Mais après, bien fait au bon endroit, avec
bien
des matières
bien fait au bon endroit,
cool,
dans le respect ouais. Des gens, dans le respect des clients, dans le respect d'une espèce de truc, ça coûte tel prix à faire, ça coûte tel prix, il y a une marge, mais elle est correcte. Dans le respect, effectivement, du produit local. Voilà, mais une marque ne fera jamais... un combattant écolo, elle ne pourra faire que limiter les dégâts. Mais si on, enfin, moi, je me méfie vachement du greenwashing. Enfin, que je trouve, c'est très maintenant et sans doute que.
Tu penses que ça va durer ce truc-là?
Bah, non, j'ai l'impression qu'on va passer au combat d'après bientôt, quoi. Enfin, ce combat-là, il est évidemment omniscient et omniprésent et sans doute éternel, malheureusement, enfin jusqu'à un certain point, malheureusement. Mais non, on risque de passer dans quelques temps à un autre combat, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Le combat qui rapportera plus que l'écologie.
Et toi, c'est quoi ton prochain combat?
Putain, mais moi, j'ai pas de combat du tout. Moi, j'ai combat, c'est quoi? C'est pour que les gens portent des costumes à leur taille. C'est quoi? Je peux pas mener un combat plus grand que ça. Non, pour que les gens arrêtent de s'habiller trop serré. Je sais pas, pour que les gens usent leurs vêtements au lieu d'en racheter. Et moi, c'est des choses très simples. Je rêve pour moi, mais aussi pour les gens, que les gens achètent moins mais mieux, les portent les choses, les usent, cessent de mettre leur tronche en photo sur Instagram, fassent des choses vraies, arrêtent de, je sais pas, non, j'ai pas de combat digne
non,
de ce nom, mais.
Je disais ça en rigolant, mais. Ton next step pour toi, quoi. Comment tu t'imagines dans les 10 prochaines années?
Ouais, ouais. Non, on a pas mal de projets pour l'étiquette. Je fais pas trop de plans. Je sais pas. Non, on continue à faire ce que je kiffe de faire, du journalisme, en diversifiant un peu les activités. J'ai pas vraiment de plan de carrière. J'ai beaucoup de projets pour. On a beaucoup de projets pour l'étiquette, des trucs qui nous excitent. Voilà. On voit un an, quoi. Enfin, un an, on sait à peu près ce que ça va donner. Mais au-delà, j'ai du mal à voir, quoi.
Tu peux nous parler de tes tatouages?
Oh non, putain, pas ça. Non, c'est, je en dirais deux mots. C'est trois. Erreur de jeunesse.
C'est Gauthier qui a balancé.
Quel salopard.
Ouais.
Ah, il est terrible.
Si tu... Qu'est-ce que tu ferais différemment
Qu'est-ce que je ferais différemment
dans ta carrière, ouais.
Je sais pas. Alors, je vais dire rien, mais c'est pas pour penser que j'ai fait les choses parfaitement. Non, pas du tout. Franchement, c'est... Non, là aussi, je ne suis pas très discerne, puisque... Il y a des gens, sans doute, que j'ai... Enfin, tu vois, quand tu fais du management, quand tu interagis beaucoup avec les gens, quand tu prends des décisions, tu dois blesser des gens. Enfin, j'imagine qu'à des moments, ça a pu m'arriver. Ça m'est jamais sciemment, j'espère. Voilà, je ferais pas ça. Enfin, tu vois. Mais j'ai toujours fait attention à ça. Ça, c'est un truc hyper important pour moi, d'être une forme de bienveillance et de d'harmonie autour de moi. Non, des choses que je ferais différemment... Franchement, j'assume grosso modo ce que j'ai fait jusque là. Et en même temps, à chaque fois que je relis un papier ancien, je me dis putain, j'aurais dû le faire différemment celui-là. Enfin, c'est anecdotique. Non, non, ça me va pour l'instant. Ça me va.
Et comment tu restes excuse-moi, hein, c'est des questions un peu à la con. Comment tu continues à te nourrir et à rester surpris? Par les choses, que tu vois tellement de choses.
Ouais. Ça c'est un truc qui, l'autre jour, je me suis dit, c'est un peu, faut faire gaffe. Faut faire gaffe à ne faire que travailler, quoi. Enfin, à un moment donné, faut se renouveler, faut lire des choses, faut voir des choses, faut prendre du temps pour emmagasiner de la créativité qui va ressortir à un autre endroit d'une façon inattendue. Mais ça c'est important, ouais, prendre du temps de lire les bouquins et pas ne pas passer sa vie sur les réseaux sociaux ou sur Instagram parce que c'est pas satisfaisant intellectuellement. Donc ça c'est un truc auquel je me disais qu'il fallait faire gaffe, lire plus, voir plus de choses, sortir peut-être un peu quand même. À un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien, je croyais beaucoup, enfin je m'efforçais de capter l'air du temps. Enfin, c'est des, j'ai des papiers que j'aimais bien faire, de raconter l'air du temps, comment on vit, ce truc de la banlieue molle. J'en avais fait un papier dans Technique Art, qui était pas trop mal, je crois. De sentir, en fait, de sentir les choses, de sentir l'air du temps. J'aimais bien ça, et je constate que le fait de travailler beaucoup me coupe de ça. Le fait de m'être en bourgeoisie, il faut l'admettre. Le fait d'avoir eu des enfants et de m'occuper d'eux, le fait de pas sortir, est un péril, quoi. Enfin, un truc auquel il faut que je fasse gaffe, parce que c'est bien d'être dans la vie, de voir les gens, de s'intéresser, d'être curieux. En fait, moi, je suis assez curieux par nature. Du coup, ça atténue un peu ce phénomène. Mais en fait, il y a un truc auquel je tiens beaucoup, c'est que je sais pas, quoi. Enfin, et j'ai pas du tout la science infuse. J'ai pas du tout la vérité sur les choses. Et moi, quand quelqu'un me dit « Ah non, je pense pas comme toi »,
tu l'écoutes.
Ouais, alors vraiment, j'écoute. C'est un truc vraiment, Ah ouais, tu penses ? Et ça fait son travail. Et donc, ne pas s'enfermer dans la posture de la personne qui sait, je pense que c'est fondamental. Quitte à avoir l'air d'un con parfois. Moi, ça m'arrive de quand on fait le magazine, alors j'ai des convictions très fortes sur certains trucs, mais à ça, je sais pas. Donne-moi du temps. Et je pense que c'est important de prendre ce temps pour laisser infuser, pour réfléchir, pour consulter, pour demander. Tu penses de quoi de ça? Ça m'arrive souvent, moi, de dire je sais pas, on va voir, attends, il faut que je réfléchisse. Ah, tu crois? Ah, t'as raison, c'était mieux comme ça. Et donc, ne pas s'enfermer dans une posture, ne pas s'enfermer dans une espèce de tour d'ivoire du mec qui, parce que vaguement, il est rédac-chef ou directeur de la rédaction, sait les choses. Ça, moi, j'essaye de faire gaffe à ça. Et je pense que c'est crucial pour ne pas s'assécher, quoi.
Et comment tu fais pour prendre tes décisions, typiquement sur un article, sur une ouais. photo ou sur un projet? Comment tu prends tes
ouais,
décisions?
J'attends l'évidence, en fait, assez souvent. C'est-à-dire quand je peux repousser une décision ou laisser mûrir. Les décisions professionnelles, alors soit ça vient tout de suite, c'est assez naturel, le tout venant de la gestion d'un magazine, c'est assez simple pour, enfin, il y a des réflexes, quoi, il y a des muscles. Quand je sais pas, je laisse mûrir, je prends le temps, je demande, t'es sûr, machin. En fait, là où je suis plus embêté, c'est souvent les décisions perso, enfin les décisions personnelles, mais professionnelles, mais perso, les trucs d'orientation de carrière, de décisions, de propositions, dire oui, dire non. Moi, ça me met dans des abîmes, des fois, d'incertitude, j'arrive pas à dire non, j'arrive pas à dire oui. Ça m'a déjà mis, je me suis déjà brouillé avec des gens parce que je leur avais dit oui et en fait, j'ai changé d'avis. Tu vois, je suis pas très clair sur moi-même, des fois, sur est-ce qu'il faut faire ou pas faire, sur est-ce qu'il faut y aller dans ce magazine ou pas, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie. Autant sur la fabrication d'un magazine, soit j'ai la réponse, soit j'attends, mais une évidence vient. Et autant sur les trucs perso, des fois je me mets en difficulté ou je fais chier, j'emmerde des gens parce que je dis pas oui, je dis pas non. C'est un peu chiant, quoi.
Et ça, tu l'as pas réglé encore?
Non. Enfin, bon après, je suis pas confronté à des grands dilemmes professionnels tous les jours. Heureusement, je rassure les employeurs et les gens. Mais quand ça arrive, je suis toujours emmerdé parce que j'ai une part de moi qui est flattée, puis une autre qui dit putain non, ce qu'on fait quand même, c'est bien comme ça, de façon indépendante. J'hésite beaucoup, je tergiverse, je dis non, je dis oui. Et ça, je pense que c'est la maturité. J'arrive de plus en plus à dire les choses aux gens, tu vois, à leur dire ça c'est pas bien. Ça c'était un truc, à un moment donné ça a été un problème, enfin c'était un sujet, toi, d'arriver à dire à quelqu'un non, ou cet article là il est pas bien, faut le refaire. C'est un truc qui est acquis aussi, moi c'est pas ma prédisposition, ma nature, ça serait que tout le monde, que ce soit tout le temps super et que tout aille bien et que ce soit la fête en permanence, mais des fois faut faire refaire, des fois faut dire non. Donc ça je l'acquiers, tu vois, il y a des gens je pense chez qui c'est plus naturel. Donc ça, je l'acquiers. Je pense que je l'ai acquis, ce truc-là. Et après, sur des décisions plus graves, qui me touchent intimement sur ce que je vais faire, des fois, effectivement, j'ai un peu de mal à décliner ou à dire oui de façon franche. Mais bon, on a tous des choses qu'on peut améliorer. Surtout moi, quoi. Enfin, donc ça fait partie des trucs, je pense, à améliorer. Ouais.
Y a un dernier sujet dont tu n'as pas parlé, c'était ta marque.
Ah ouais. Bien sûr. C'est incroyable parce que je suis retombé tout à l'heure sur un truc qu'on avait mis sur Instagram. Non, c'était sur Twitter à l'époque. On avait fait une casquette avec Jacquemus en 2013.
Oui. Et tu sais que je l'ai acheté cette casquette. Ah, cette casquette. Je l'ai.
Donc, quelqu'un m'a renvoyé ça, mais 6 ans après sur Instagram. Et en fait, donc, La Rose, ouais, c'est une marque de couvre-chef et qui est un peu, je parle un peu au passé parce que c'est en suspens, plus ou moins, l'entité existe toujours, mais on s'en occupe beaucoup moins avec Isaac. Parce qu'on n'a plus le temps et qu'on est tous les deux passés un peu à d'autres projets, mais ça n'a pas fait faillite. Enfin, on a juste cessé de créer, quoi. Mais c'est un truc qui nous a appris énormément de choses.
Qu'est-ce que t'as appris alors? Ça, c'est intéressant.
En fait, c'est-à-dire que c'est comme si un mec qui écrivait sur le foot, à un moment donné, se mettait, rentrait sur le terrain, quoi. Parce que c'est un peu ça. Et donc moi, j'écrivais sur le vêtement, et puis à un moment donné, j'en ai fait, quoi. Donc ça m'a appris la prod, ça m'a appris la difficulté à assumer des coûts, à assumer des marges, ça m'a appris que comment créer une envie autour d'un projet, ça m'a fait rencontrer des gens, ça m'a fait vendre, ce qui n'est pas du tout ma nature. D'ailleurs, j'étais tellement pas vendeur dans l'âme, je suis toujours tellement pas, que Isaac me disait de partir quand on faisait un showroom et tout, parce que moi je disais, oh, celle-là, cette casquette-là, vous êtes vraiment sûr? Oh, pas terrible. Alors, j'étais vraiment contre, je suis pas du tout business, en fait, vraiment pas. C'est un problème d'ailleurs, mais bon. Du coup, ça m'a appris plein de choses, de faire ça. Il se trouve qu'aussi on a fait ça a bien marché, quoi. Enfin, on a fait des collabs assez dingues quand on y repense. On a fait Jacquemus, Ami, Missoni, Sunspell, Our Legacy. Enfin, on a fait plein de trucs très cool avec des marques vraiment chouettes. Et on en a produit des casquettes. À un moment donné, on en faisait genre 6 ou 7 000 par saison, produites en France.
Ouais, c'est pas rien.
Vendues à un certain prix. On était dans une 70 points de vente. Donc c'est un apprentissage. Pour moi, qui suis quelqu'un de très littéraire, par définition, c'était vraiment une...
Tu te faisais mal un peu.
Ouais, ouais, il y avait un truc de violence. Alors, j'étais plus à l'aise dans la partie prod et conception que dans la partie vente. Et assez vite, on a trouvé un modèle économique avec l'usine. C'est-à-dire que l'usine nous versait des royalties sur nos ventes et gérait toute l'expédition, la facturation et nous reversait des dividendes. Donc ça nous allait parce que ça nous a déchargé de la partie vraiment chiante qui sont la facturation et l'expédition. Ça nous a permis d'apprendre plein de trucs, de rencontrer plein de gens. Ça, c'est assez cool. J'ai rencontré des gens passionnants. Bah, Sébastien Leveja, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis plein de gens de plein de marques. On les a rencontrés comme ça. C'est une super expérience, Isaac. Je pense qu'on est des amis maintenant pour toujours, alors qu'on s'est lancé comme ça en se croisant, sans trop se connaître. Et qu'on sait déjà, il n'y a jamais eu de coup de pute, de Trafalgar. Parce que je pense que tous les deux, on n'est pas des businessmen dans l'âme. Et qu'on a voulu faire un truc bien. En fait, il y a quand même un moment donné où dans la vie, je pense que tu dois prendre position. Est-ce que tu veux faire un truc bien ou est-ce que tu veux faire un truc qui rapporte de l'argent? C'est un peu schématique ce que je veux dire, ce que je dis, mais je pense que somme toute, au fond, il faut y penser. Est-ce que moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de gagner de l'argent ou est-ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de faire des choses bien? Les deux se valent. Enfin,
il n'y a pas
de jugement de valeur. Il y a juste, à un moment donné, faire un truc bien, honnête, qui respecte le client, qui respecte le fabricant. Mais je parle de la mode, mais aussi de la presse. Je parle au sens large. Ça rend pas riche, quoi. Ça rend pas riche à notre époque. Par contre, on peut penser des systèmes, on peut penser des entreprises qui sont formatés pour créer de l'argent très vite. C'est pas évident non plus.
C'est
un métier, c'est une autre façon de penser. Et ça vaut le fait de produire des choses bien, mais à un moment donné, je pense qu'il faut choisir son camp. On peut avoir un pied dans les deux aussi. Ça peut m'arriver de faire des choses très rentables très vite. J'essaye de bien les faire quand même. Mais enfin voilà, je pense que quand même, à un moment donné, il faut faire ce choix-là. Et moi, j'ai l'impression d'avoir choisi plutôt d'essayer de faire des choses bien, d'essayer. Le journalisme n'est sans doute pas l'activité qui rapporte le plus d'argent en 2019, Je me plains pas du tout de mes conditions de vie, loin de là, et je suis très bien loti par rapport à beaucoup de journalistes. Mais je pense que, à des niveaux de réussite similaires, dans d'autres secteurs, il y aurait sans doute plus d'argent à gagner. Je pense que monter une marque qui est formatée pour faire des marges de 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, ça peut exister aussi. On peut avoir cette ambition-là. On peut trouver des investisseurs pour le faire. Et c'est une autre façon de penser. C'est une autre façon de penser le produit. C'est une autre façon de penser le rapport au client, de lui parler. C'est un autre temps aussi. Mmh. Ça va plus vite. Bien faire, ça prend du temps. C'est long. Voilà. Je pense que malgré tout, il faut un peu choisir.
Et votre marque, la Rose, ça s'est terminé comment?
En fait, ça s'est terminé par le fait qu'à un moment donné, on a dit aux clients qu'il n'y aurait pas de collection suivante. Donc là, elle existe toujours. On a toujours l'entité existe toujours administrativement. Elle n'a pas du tout été dissoute. Simplement, ça fait 2 ans ou 1 an et demi qu'on n'a pas lancé de prod auprès de notre usine.
C'est endormi.
On l'a pas du tout voulu la dissoudre parce que symboliquement, pour moi, Isaac, c'est un truc qui est assez fort. Enfin, c'est le nom La Rose, c'est le nom d'Isaac. Donc je pense pour lui c'est assez fort aussi. Et puis on se dit pourquoi pas un jour la relancer. On n'a pas cherché à la vendre, on n'a pas cherché à la dissoudre, enfin juste on est passé un peu à autre chose dans nos têtes, dans des moments, c'est un moment pour autre chose dans nos vies. Mais elle est toujours là quoi.
Très bien. Deux dernières questions pour clôturer, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné?
Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné? C'est compliqué. Est-ce qu'on donne des conseils? Non, je sais pas si c'est un conseil qu'on m'a donné. Non, mais d'être, c'est un truc con, mais d'être bienveillant, quoi. Enfin, je sais pas si c'est un conseil d'ailleurs, mais c'est un conseil que je donne à la limite. Non, mais d'être bienveillant avec les gens, de penser aux autres. Récemment, il y a Gauthier qui racontait que son père lui avait dit la culture avant l'argent. Je pense que c'est pas un mauvais conseil à donner aux gens. Voilà, c'est deux modestes conseils que je peux reprendre et je pense qu'ils sont pas idiots.
Une dernière question pour clôturer l'épisode, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Moi, je serais intéressé par par exemple Eddie Slimane se raconte. Je sais pas si c'est une réponse très originale, mais je l'écouterais quoi.
Ouais. Comme beaucoup, je pense.
J'imagine.
Mais écoute, c'est tout ce que je me souhaite. bonne continuation. À bientôt.
Merci.
Merci
à toi.
Salut.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.